Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Quel est le plan de riposte contre la variole des singes, appelée Mpox? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec Dr Roger Kamba, ministre de la Santé. On aura également le professeur Nadège Ngombe Kabamba, coordonnatrice de la commission des coordinations Une Santé. Voilà le premier sujet de ce magazine de la vie au quotidien. Et dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler de la foresterie communautaire. Quels sont les avantages de la foresterie communautaire et quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en place de ce système? Ce sera le deuxième sujet de cette émission à partir de 10h-11h05. Heure de Kinshasa. Bienvenue à tous dans cette émission de la vie au quotidien. Nyangasa, Wanyangasa sur la mise en onde de cette émission. Tati Mapuku est à la coordination et à la réalisation avec Julie Fizabongonda. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Connaissez-vous la monkeypox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de monkeypox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la monkeypox s'est faite à travers des lésions, voire plaies de liquide organique comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de monkeypox et le rapport sexuel avec une personne malade de monkeypox. Pour nous protéger contre la monkeypox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de monkeypox et éviter tout contact avec les objets souillés par des malades de monkeypox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151 ou adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire.
Bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous allons parler du plan des ripostes contre la variole des singes, appelée monkeypox. Vous savez, la variole des singes continue à se répandre à travers l'étendue de la République et dans d'autres pays africains et ailleurs. Le ministère de la Santé annonce 206 nouveaux cas enregistrés sur les territoires nationaux au cours de la semaine dernière. Le bilan cumulé depuis le début de cette année est de 17 800 cas suspects recensés et 610 décès, indique la même source pour l'OMS. Ces épidémies peuvent être maîtrisées et stoppées en RDC et dans les pays voisins. Cela demande près de 120 millions d'euros pour financer la riposte internationale dans les six prochains mois, selon un communiqué de l'OMS. Alors, quel est le plan national des ripostes contre la variole des singes, appelé Mpox, Monkeypox? Nous avons en ligne Dr Chako Mahmouda Hakim, le chef des divisions techniques au programme national de lutte contre le monkeypox. Docteur Hakim Chako, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue
dans... Comment vous allez?
Très bien, merci. Bienvenue dans cette émission où nous parlons du plan des ripostes contre la variole des singes appelée monkeypox. Alors, d'abord, avant d'aller plus loin, docteur, pouvez-vous nous rappeler, nous dire c'est quoi le monkeypox et qu'est-ce qui est à la base de cette maladie?
Merci beaucoup. Le monkeypox, d'abord, c'est une zoonose est caractérisé par une fièvre ischio-pustulaise et causé par un orthopox virus du genre de la famille Pox viridae et qui est dans l'espèce avec cowpox et variola et voilà. Donc oui. C'est une zoonose caractérisée par une fièvre de cause et suivi de la éruption cutanée causée par un orthopox virus. Voilà, c'est ça le monkeypox.
Voilà, en des termes beaucoup plus simples, là vous avez plus utilisé des termes techniques. En des termes plus simples, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Oui, on peut retenir ceci. Le monkeypox, c'est une maladie et qui vient des animaux. Et caractérisé par une fièvre, et ou une montée de fièvre, vu des plaies où il y a des vésicules à l'intérieur, des liquides à l'intérieur, et causé par un virus qu'on appelle orthopox virus. Voilà.
Et comment cette maladie se transmet?
Oui, la maladie se transmet, il y a, des modes de transmission, il y a un mode direct et un mode indirect. Pour le mode direct, c'est un contact direct avec l'animal malade ou une personne malade de cette maladie. Et par mode indirect, c'est avec son environnement. Voilà.
Oui, quand vous parlez de son environnement, il s'agit de quoi?
L'environnement, c'est-à-dire les objets souillés de malades, et les habits, les assiettes, tout ce qui est à côté de malades.
Bien. Et quel est le temps, disons, le temps d'incubation de la maladie?
Voilà, le temps d'incubation de la maladie, c'est de 7 à 21 jours. En moyenne, c'est 12 jours.
Voilà, moyenne 12 jours. Alors aujourd'hui, on parle déjà de 17 800 cas suspects recensés à travers le pays. Vous confirmez cela?
Oui, nous le confirmons parce que l'ascension est vue par le mode sexuel, parce que la maladie de se transmet aussi par cette voie sexuelle qui est plus maintenant en vogue aujourd'hui.
Bien, donc vous dites que le mode de transmission, si la maladie monte, il y a beaucoup plus de cas, c'est à cause des rapports sexuels.
Oui, ça fait partie de cette ascension de la maladie. Ça fait partie de cette ascension de la maladie et puis les mouvements des personnes, parce qu'à cette épidémie, on ne peut pas arrêter le mouvement des personnes. Et les personnes peuvent aller d'un endroit à un autre, et comme ça, et on ne peut pas l'intercepter. Et voilà, ça fait partie du véhicule de la maladie. Quand quelqu'un est malade, il se déplace, à un endroit quelconque, il est en contact avec des personnes. Vous comprenez que non, ça c'est un contact direct, et ou un mode direct de transmission.
Et on parle déjà de 600 décès, c'est beaucoup.
Justement, 206 décès, c'est beaucoup.
Mais on parle de 610 décès.
Pardon, vous dites?
610 décès. 600 personnes
oui,
déjà 600, qui sont décédées.
610 décès ou des personnes décédées, ouais. Oui, c'est confirmé. Vous savez, il est toujours dit que quand on est malade, on doit se rendre vite au centre de santé le plus proche, se faire examiner, et c'est pour qu'il y ait un suivi correct. Mais cela étant, les personnes avec les premiers signes qu'on appelle la fièvre, et il se garde à la maison aussi longtemps qu'il y a des précautions à prendre par rapport à tout ça. Par rapport à nous, étant du programme, par rapport à ce que nous avions toujours dit, quand il y a d'abord les premiers signes, il faut se rendre le plus vite possible au centre de santé le plus proche. Et après, ou se mettre en isolement soi-même et avoir une observation s'il y a des boutons ou qu'il y a des liquides à l'intérieur, automatiquement, vous allez à l'hôpital. Voilà.
Et quels sont les premiers signes qui peuvent alerter une personne ou son environnement?
C'est toujours la fièvre.
C'est toujours la fièvre? Bien.
Et, c'est toujours la fièvre.
Oui. Mais il y a la fièvre peut signifier qu'il y a autre chose. On ne peut pas tout de suite penser à cela.
Justement, c'est comme ça qu'il y a cette période d'incubation de 7 à 21 jours. Et c'est-à-dire que quand vous avez la fièvre, qui est le premier signe, on avait dit la moyenne c'était 12 jours. Donc, il y aura des éruptions cutanées qui vont suivre. Donc, les boutons qui vont commencer à s'installer. Et dans ces boutons-là, il y aura des liquides. Et ces liquides-là qui vont avoir, qui vont se transformer à des pus. Et quand vous avez ces boutons-là, d'abord, qui sont durs, de même taille, pensez directement au monkeypox avant que tout arrive. Parce que ce sont des vesicules de même taille.
Et qu'est-ce qui fait que les gens décèdent? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une bonne prise en charge ou c'est il y a d'autres raisons derrière?
Bon, vous savez, il y a d'autres raisons derrière, si on peut dire, parce que la prise en charge est là. La prise en charge est là. Et quand on dit toujours que c'est un virus, jusqu'à preuve du contraire, c'est une maladie qui est symptomatique. La prise en charge d'abord est symptomatique. Partout où il y a cette maladie, la prise en charge d'abord est symptomatique. Et la fièvre se présente. La fièvre se présente comme les premiers signes. On traite la fièvre. Et quand il y a les éruptions, là, on fait il y a les éruptions, il y a des vésicules, on fait le prélèvement, on en voit. Mais en dehors de la fièvre, tout ce qui est comme maux de tête, parce que ça fait partie des signes, la myalgie, donc des douleurs musculaires, il y a des douleurs articulaires, tout ça, quand vous avez tout ça, on traite en fonction de ces signes-là qui apparaissent. Et si vous prenez du temps, ça entraîne à une complication, à une phase modérée qui monte, qui change de la phase primaire, de la phase d'incubation à la phase qui est la phase d'invasion. Et cette deuxième phase-là, qu'on commence maintenant à voir ce qu'on appelle les vésicules, les pistules, et tout de suite. Et à cette phase-là, on amène maintenant la personne à aller à l'hôpital. Si ça transforme maintenant à la phase d'état, qui est la troisième phase, là c'est maintenant état sévère parce que la personne n'est pas même pas à se déplacer. Là il y a des ganglions qui se présentent partout, au niveau cervical, au niveau axillaire et même au niveau buccal. Il y a une difficulté de manger, une difficulté de boire et tout ça qui entraîne une complication par après. Et à cela, on a toujours dit que le malade maintenant doit être vraiment isolé, prise en charge correctement et avoir gardé la peau sèche et propre pour qu'il n'y ait pas une surinfection. Parce qu'avec ça, le malade, s'il est à ce stade-là, la surinfection est plus proche de lui. Voilà.
Bien. Alors on va accueillir un premier auditeur dans cette émission qui s'intéresse au plan des ripostes contre la variole des singes appelée monkeypox. Roger Marcel, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Je dis bonjour à l'invité et bonjour à tous les amis de la fréquence de la Terre.
Oui.
Merci beaucoup pour la thématique et pour m'avoir encore accordé la parole. J'ai aussi quelques préoccupations que je pourrais demander à notre invité. Parce que de plus en plus, depuis qu'on a déclaré cette maladie très urgente, il y a des cas qui s'est augmenté en République démocratique du Congo. Quand on suit toujours les médias, et en République démocratique du Congo, il augmente du jour au jour. Mais d'ici là, le 2 septembre, il y aura la rentrée scolaire pour les enfants qui vont encore rentrer avec pour les activités scolaires. Je pense que l'État congolais a pris Parce que, comment la maladie, il y a des cas qui augmentent avec les enfants qui ne connaissent pas rien, quelque chose. Il y aura quelque chose de mesures que l'État congolais a pris. Et je pense que dimanche, il y a des 6 provinces qui ont cette maladie déjà dans ces provinces-là. L'État congolais a donné un montant là pour que, pour la prise en charge. Je ne sais pas avec ce montant-là, on sait comment notre gouvernement, comment les choses fonctionnent dans notre pays. Parce qu'on a vécu avec ça, avec la COVID-19, il y a eu des montants qui ont été versés, il y a eu même des détournements. Je pense que si au niveau du gouvernement, qu'on ne puisse pas prendre cette maladie avec beaucoup d'importance, je pense que ça pourrait beaucoup se partager partout, ça pourrait même attacher même au niveau même des activités même de l'économie nationale. Je pense que l'État va prendre un peu ce mesure pour que cette maladie puisse pas être partagée pour tout, ça sera un peu bien. C'est ça aussi mes préoccupations que je voudrais demander à l'invité.
Bien, merci Roger Marcel qui demande quelles sont les dispositions prises avec la rentrée scolaire. Les enfants vont retourner à l'école bientôt. Est-ce que il n'y a pas de risque? Et puis il parle de des fonds alloués, comment faire pour éviter les détournements afin que ces fonds puissent servir à la lutte contre cette épidémie. Docteur Hakim, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur?
Ok, merci beaucoup. Par rapport, donc c'est une question qui a au moins qui a deux volets. Et par rapport au premier volet de la rentrée scolaire est là. Le gouvernement prend toutes les dispositions possibles. Et depuis que la COVID a été là, on a instauré le système des dispositifs de lavage de mains dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Et c'est la meilleure protection à la première minute. Donc, la recommandation, c'est là, de se laver les mains et au savon à tout le temps qu'on vient ou qu'on rentre quelque part. Et c'est la première condition. Donc, par rapport à ça, et qu'il n'y a pas une inquiétude, le gouvernement prend toutes les dispositions possibles pour prévenir cela dans des milieux scolaires. Donc, la rentrée scolaire est là, qu'il n'y a pas de crainte. Par rapport aux frais alloués par le gouvernement à cette riposte, je pense qu'il y a un organe habilité qui peut répondre à cette question, mais parce que là, il parle des problèmes de détournement, ainsi de suite. Le gouvernement prend toutes les dispositions pour ça. Et il y a un organe habilité. Donc, l'argent va entrer à cet organe-là qui va gérer ces moyens pour la prise en charge de cette maladie. Donc, étant du ministère, je ne suis pas peut-être ouvert pas la bouche à dire voilà ça par rapport à ces moyens-là, parce qu'il y a un organe habilité pour la gestion des fonds de la maladie monkeypox. Merci.
Bien, on va accueillir Malonga qui nous appelle des Bandundouville. Bonjour Malonga, et quelle est votre préoccupation?
Bonjour Jody, bonjour à l'excellence et bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment-ci. Bon, ma préoccupation aujourd'hui, moi en particulier, je me demande souvent et je commence à critiquer la période où le moment où nous vivons. À chaque fois, excellence, s'il vous plaît, président de la République, à son début de son mandat, il y a toujours des problèmes d'épidémie. Le premier mandat, à son début, il y a eu le coronavirus. Il y a eu des difficultés pour ça. Nous tous, nous sommes témoins. Le mandat autre aussi, nous commençons avec la variole des singes. Alors, moi, je me demande, c'est quoi ça? Spirituellement et culturellement, c'est quoi? C'est quoi? Bon, ça va. Ce que le ministre vient de dire là, il est médecin.
Non, le ministre n'est pas encore là. Le ministre n'est pas encore en ligne. Il sera là tout à l'heure. Maintenant, nous faisons le point avec docteur Hakim Chako, qui est chef des divisions techniques au programme national de lutte contre le monkeypox.
Ok, merci. Le docteur aussi est là. Bon, ce qu'il dit, oui, c'est ça, c'est de son domaine. Mais nous-mêmes ici, la population commence à critiquer la période et toutes les maladies. Vous voyez, il y a déjà la préparation de réceptionner le lot de vaccins. Ça, la population critique ça. Puisque toute maladie que nous vivons, nous l'avions aussi vécue. Et nous nous sommes habitués à ça. et nous avons notre mode de traitement de ça. Et les traitements antiques nous servent vraiment à se protéger à ça. Concernant la situation politique aussi, je dis, bon, je m'excuse, hein, nous sommes dans une radio vraiment internationale, mais il faut le dire seulement, nous doutons avec tout ce qui nous arrive. Nous doutons avec ça. Puisque la vie que nous menons par rapport à ces maladies nous imposait, je m'excuse, et il faut le dire, en tout cas, non, nous ne sommes pas contents avec ça.
Malonga, qu'est-ce que vous voulez dire exactement qu'on parle déjà des vaccins pour lutter contre cette maladie, cette variole, et vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de vacciner la population?
En réalité, nous ne sommes pas d'accord. Moi, je suis internaute, je suis aussi d'autres chaînes internationales. Il y a là, chez eux, là, au blanc. On interdit la transfusion de sang de celui qui a été vacciné au coronavirus. Pourquoi cela? Pourquoi? Puisqu'ils savent que, non, ceux qui ont été vaccinés contre le Covid-19, en tout cas, leur sang ne sont plus encore favorables à la transmission. Vous voyez, c'était une poison. Alors, l'autre qui vient aussi...
Bien, Malonga, on a compris. Oui, on a compris vos appréhensions. Vous pensez que le vaccin pourra peut-être entraîner ou tuer les Africains, comme certains, beaucoup le disent dans les réseaux sociaux. Merci, Achille. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Quelle est votre question par rapport à la riposte contre la variole des singes?
Oh bon, ma question s'adressait à monsieur l'invité. Comment ils font pour arriver à convaincre une catégorie de la population qui jusque-là continue à douter de l'existence de cette maladie, parce que vous vous rappelez, lors de corona, même aujourd'hui où je vous parle, il y a certaines personnes qui n'ont jamais cru à l'existence du Covid. Aujourd'hui encore, il y a cette maladie qui est apparue. Comment ils font pour arriver à convaincre ces gens-là que non, la maladie existe et il faut prendre ces mesures afin de vous protéger les autres. Merci, c'est là ma question.
Bien, merci. Docteur Hakim Chako, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Ça, ce n'est pas une nouveauté chez nous au pays. D'abord, les premiers cas de maladie de monkeypox étaient à Bassankoussou vers les années 1970, chez un enfant de 9 mois. Et c'est là où c'était le premier cas. Et après, ça s'est devenu, ça a évolué. Et il y avait que toujours, c'est la province de l'Équateur à l'époque qui en avait toujours le monopole. Et après, ça s'est transféré au Sanko parce que c'est toujours dans les mêmes et zone forestière, Sankourou, Équateur, c'est presque dans la même zone, et ça s'est transféré. Comme j'ai dit juste par mon introduction, qu'on n'arrête pas la mobilité des personnes, et la maladie a quitté l'Équateur, même bien que l'Équateur reste encore le foyer, l'Équateur est les Sankourou qui étaient devenus des provinces endémiques avec cette maladie. Et voilà que ça s'est propagé maintenant presque partout au pays aujourd'hui. Rappel, la variole qui existait, qui attrapait les enfants, c'est vers les années 1980 ou à l'Assemblée mondiale à Genève où on avait éradiqué la variole. Mais ici, chez nous, en 86, il y avait une épulsion, une explosion de cette maladie-là. Et en 97, il y avait la première flambée, une grande épidémie à Katakokombe avec 511 cas, avec au moins 78% de décès. Vous comprenez que ce n'est pas la première fois que cette maladie arrive chez nous au pays, c'est depuis les années 70. Et c'est seulement que ça a traversé d'une province à une autre du fait que la mobilité des personnes est toujours libre. Donc, on ne peut pas arrêter la mobilité des personnes.
Bien. Alors comment se présente le plan des ripostes? Parce que Malonga nous parle déjà de l'idée de la vaccination et qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et selon ce qui circule dans les réseaux sociaux, c'est des maladies des blancs pour venir tuer les Africains avec le vaccin.
Bon, en fait, je peux parler à mon interlocuteur que non, ce n'est pas la maladie des Blancs, c'est une maladie. Vrai, c'est pourquoi je remonte jusqu'à 1970 et parlais là où on s'était retrouvé les premiers cas à Bassankoussou. C'était à l'Équateur. L'Équateur, c'est dans notre pays qu'on appelait Zaïre à son temps. Et aujourd'hui, par rapport au plan de riposte, le plan de riposte est là qu'il y a au moins trois niveaux. Le niveau A, le niveau B et le niveau C. Le niveau A, c'est là où la maladie est vraiment chaude, donc les provinces sont chaudes à la maladie. Le niveau B, c'est là où le niveau où les cas sont là, mais ils ne sont pas vraiment à la avec une propulsion. Et la partie où la zone C, c'est la zone où ce sont les zones de santé où ils n'ont pas encore connu des cas. Parce que dans une province, vous pouvez avoir 3-4 zones de santé et la maladie est focalisée juste à une zone de santé. Alors, c'est ça les plans de riposte, comment elle est subdivisée. Et par rapport au vaccin, moi, je peux dire à mon interlocuteur qu'il n'y a pas d'autre moyen qu'on peut arrêter la propagation de la maladie qu'on appelle le monkeypox sur le virus par rapport au vaccin. Pourquoi? Parce que les vaccins qu'on a peur, on est en train de craindre ces vaccins-là, ça a été mis en expérimentation chez nous par les prestataires de soins depuis 2017. Donc, aucune anomalie a été devinée par rapport à ça. Donc, le vaccin, ce n'est pas un vaccin des Blancs. Je vous informe, c'est le vaccin qui a été expérimenté chez nous et on veut le faire chez nous au pays. Donc, ce n'est pas un vaccin qui est venu, c'est pas des Blancs avec un virus quelconque qu'on a inoculé pour donner aux Africains. Non.
Voilà. Bien. Et puis, voilà, donc c'est pas... Mais Achille de Lubumbashi nous dit qu'il y a encore des gens qui doutent sur l'existence de cette maladie. Comment les arriver comment les convaincre, les amener à réaliser que la maladie est réelle?
Bon, la maladie est réelle parce que peut-être qu'il n'a pas l'information, il ne fait pas partie peut-être des personnes qui sont déjà formées ou informées par rapport à cette maladie-là. Et je rentre encore en arrière pour dire que la maladie a été chez nous depuis 1970. C'est là où il y avait les premiers cas à Bassankoussou, précisément à l'Équateur. Et en 1986, hein, la maladie était chez nous au moins 308 cas avec les pays voisins. Donc ça s'est transféré aux pays voisins tels que la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, ainsi que les Nigeria. Partout là, à cette période-là, la maladie était là. Mais chez nous, au pays, à l'époque, c'était Zaïre. C'était à 308 cas, aussi longtemps que chez les voisins, était de 1 cas, 2 cas. Donc, vous voyez que c'est toujours nous qui sommes toujours les versions de cette maladie-là. Même si on dit que non, ce n'est pas que ça a commencé ailleurs, ça a commencé chez nous, au pays. Et c'est nous qui sommes les foyers ou les puissantes de la maladie au niveau mondial. Et à cette maladie. Donc, ce n'est pas une maladie nouvelle au pays. Et parce qu'il n'a pas d'information, mais l'information, c'est que nous lui donnons, qui est une vraie information. S'il doute, il n'a qu'à chercher ces mêmes informations-là par d'autres sources. On lui dira, même l'Internet qu'il a lui-même, les Google, il peut demander où c'était les premiers cas. On va lui répondre que c'était au Zaïre à l'époque, au niveau de l'Équateur.
Bien, nous parlons du plan de riposte contre la variole des singes appelé monkeypox. Nous avons en ligne professeur Nadège Ngombe, qui est coordonnatrice de la commission des coordinations Une Santé. Professeur Nadège Ngombe, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs.
Bienvenue dans cette émission, professeur. Après Covid, aujourd'hui le pays et voilà et certains d'autres pays font face à cette épidémie appelée Mpox, variole des singes. Alors comment doit-on riposter contre cette maladie qui mobilise déjà beaucoup d'argent? On a suivi l'OMS a annoncé que ça demande près de 120 millions d'euros pour financer la riposte internationale pour les 6 prochains mois. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
Merci bien pour cette question. Je pense que mes prédécesseurs du programme MPOX et son Excellence Monsieur le Ministre ont dû vous donner un peu les éléments clés de cette riposte. Ce que moi j'aimerais ajouter, c'est cet aspect multisectoriel que doit prendre la riposte, et cet aspect est recommandé à tous les niveaux, au niveau de l'OMS, au niveau africain et même au niveau du pays. Pourquoi? Parce que il est constaté pour le cas de notre pays que nous avons principalement deux modes de transmission. Nous avons cette transmission zoonotique qui va de l'animal à l'homme, parfois qui peut aller de l'homme vers l'animal, et nous avons aussi la transmission de l'autre côté qui est interhumaine, qui maintenant s'est vu ajouter la transmission sexuelle. Mais dans les temps, quand on a parlé de la transmission dans les passés, quand nous étions en zone complètement endémique, nous avions beaucoup plus la transmission zoonotique. Et si nous parlons de la transmission zoonotique, donc nous faisons face à une maladie qu'on appelle zoonose. Et tout ce que nous avons comme maladie zoonotique doivent être soignés, doivent être suivis en tenant compte d'une coordination qui soit multisectorielle, en tenant compte de l'approche que l'on dit intégrée ou bien l'approche multisectorielle. Parce que si on ne tient pas compte des autres secteurs, il nous est impossible de rompre la chaîne de transmission, surtout en ce qui concerne cette transmission zoonotique. Alors, quelle est la part de l'approche une santé dans cette riposte? La part de l'approche une santé, cet apport multisectoriel, c'est d'abord faciliter, favoriser que toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table, qu'ils puissent coordonner sous un leadership partagé et voir ensemble qu'est-ce qui doit être fait. Chacun, suivant son expertise, il apporte la main à la pâte pour que nous puissions effectivement y aller ensemble, mais en tenant compte de tous les aspects de cette riposte. Je vais expliciter cela par un exemple.
Oui.
Il a été constaté que les différents foyers que nous avons actuellement de Mpox sont tout autour des zones forestières. Ça veut dire que quelque part, nous avons une implication de cet environnement de la forêt. Et vous le savez, avec les changements climatiques, avec tout ce que nous observons, le monde est déstabilisé dans ce sens que peut-être ce qui était enfoui vient facilement vers l'homme et vice versa, et il y a tout ce qu'on peut observer comme comment est-ce que je peux dire mutation au niveau du virus, des autres germes aussi. Alors si on doit tenir compte de ça, nous n'allons pas laisser au seul médecin ou bien au seul professionnel de santé, de la santé humaine, de s'occuper de ces chargés du Mpox. Il faudra que nous puissions faire intervenir les spécialistes du secteur animal. Pourquoi? Parce que eux, ils peuvent nous aider en créant des sites sentinelles. Ils peuvent observer, ils peuvent étudier ce qu'il y a comme comment est-ce que je peux dire changement au niveau de la santé animale, et ça peut donner des éléments pour nous permettre de pouvoir bien répondre à Mpox dans les secteurs humains. Donc nous avons besoin d'avoir ces autres experts, nous avons besoin d'avoir des anthropologues, des psychologues, ainsi de suite. Tous ces experts-là doivent contribuer à ce que nous puissions avoir une réponse holistique, nous puissions avoir une vue systémique pour arriver à avoir la meilleure des réponses que possible et arrêter cette maladie qui est, je veux dire pour la RDC, urgence à trois niveaux. Niveau national, niveau africain et puis niveau international, et les regards du monde entier est focalisé sur la RDC parce que la RDC a identifié, a montré beaucoup plus de cas, et que s'il faut agir, il faut commencer par la RDC et aider les autres pays aussi à rester safe pour le monde entier.
Bien. Alors, professeur, dites-nous, vous parlez de la riposte multisectorielle, il faut impliquer tout le monde, impliquer les vétérinaires, etc. Alors, quand est-ce que cela doit commencer et comment sera le système de trêve? Comment vont-ils collaborer pour unir les efforts, conjuguer les efforts afin de lutter contre cette maladie?
Ok, cela a déjà commencé. Je vais illustrer cela encore par un exemple. Nous avons eu la première urgence de santé publique de portée internationale décrétée en 2022 et puis on l'a arrêtée en 2023. Nous avions eu un premier système de gestion de l'incident. Ce système était monosectoriel. Il y avait seulement le secteur humain. Mais on a vu avec l'évolution de la situation, il a été mis en place un système de gestion de l'incident multisectoriel qui prenne en compte les différents secteurs. Les incident managers adjoints à travers les provinces sont du secteur animal, donc on va dire de la faune, plutôt du secteur de domestique et puis de la faune sauvage. Oui. Ça c'est déjà de un, c'est au niveau de la coordination. Au niveau de la coordination, on tient compte du fait que la réponse doit être multisectorielle. Alors quand on regarde les différents piliers, si on prend le pilier par exemple surveillance, en même temps les experts de la santé humaine font ce qui doit être fait pour la surveillance, investigation et tout ça et laboratoire. En même temps, nous observons les experts de la santé animale s'occupent aussi du monde animal. On leur capacite, on renforce les capacités pour qu'ils puissent savoir comment est-ce qu'il faut détecter, comment est-ce qu'il faut faire des prélèvements dans le monde animal, comment est-ce qu'il faut observer, faire le suivi en ce qui concerne la surveillance, tout ce qui doit être fait. On peut aussi prendre un autre exemple. Il faut qu'il y ait une meilleure communication des risques et avoir l'engagement de la communauté. Quand on parle de la communauté, on voit ces agents la communauté tels que les relais communautaires. Nous avons les AXA, donc les agents communautaires du secteur animal, et puis nous avons les éco-gardes. Il faudra qu'ils soient briefés, formés ensemble, parce que chacun d'eux a un message à donner par rapport à son expertise, par rapport au secteur. Donc si on les forme maintenant ensemble, ça montre déjà la multisectorialité. Oui. Ils vont donner organiser des dialogues avec les communautés en tenant compte des différentes données que nous avons de chaque secteur pour que la population puisse savoir que peut-être en mangeant un animal de la forêt mort, j'ai le risque d'attraper cette maladie. Un agent communautaire du monde animal va mieux l'exprimer parce que il a des termes techniques par rapport à ça. Et il peut compléter le relais communautaire de la santé humaine qui donne les messages en tenant compte de signes de Mpox, par exemple, au niveau de la communauté. Donc, nous voyons déjà que la riposte a commencé. Cette fois-ci, elle est multisectorielle. Et l'OMS, qui est l'autorité sanitaire internationale, insiste sur le fait que nous devons faire de l'approche une santé, pas seulement en les disant, comme je le dis, non, mais l'opérationnaliser complètement. Oui. Le ministre, son excellence monsieur le ministre, vous a dit qu'il tient chaque lundi des réunions stratégiques pour avoir la situation épidémiologique et quelles sont les actions stratégiques à mener. Pour la première fois, c'était la réunion de ce lundi, la plateforme Une Santé a pu mobiliser les autres secteurs autour de son excellence monsieur le ministre de la Santé pour montrer que effectivement nous répondons à cette épidémie, oui, en tenant compte de la multisectorialité. Donc, nous avions le secrétaire général de pêche et élevage, le secrétaire général de l'environnement, qui ont donné des contributions assez pertinentes pour orienter la finalisation du plan de préparation des ripostes qui était en cours de révision.
Bien, nous parlons du plan des ripostes contre la variole des singes appelée Mpox. Des questions et préoccupations, composez les 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Bien, nous parlons du plan des ripostes contre la variole des singes, appelé un POX. Nous avons un auditeur en ligne, Patrick Audia. Patrick, bonjour.
Bonjour, Tati Mapoukou, et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio, Cathy.
Oui, il s'agit plutôt des Jody Kachama, Patrick Audia. Vous êtes à Lubumbashi, quelle est votre question?
D'emblée, je voudrais un peu attirer l'attention du gouvernement central, voire aussi des gouvernements provinciaux, parce que si certains efforts sont fournis au niveau national, mais il est vrai qu'il faut les dire également au niveau de la province, nous ne sentons pas un peu la sériosité, la vigilance et surtout la diligence dans la prise en charge de cette maladie également. Eh bien, nous nous demandons, est-ce que réellement cette maladie, elle est effective en RDC? Si tel est le cas, pourquoi, par exemple, dans la province du Haut-Katanga, le gouvernement provincial n'a rien pris comme mesure, quand je parle de mesures, c'est-à-dire des mesures suffisantes pour essayer de mettre un peu lutter contre cette maladie? Nous avons vu également que lors de Covid-19, il y avait des mesures qui étaient prises avec beaucoup de dépenses d'argent et tout ça en termes de finances. Mais au jour d'aujourd'hui, si à Lubumbashi, il n'y a pas peut-être des cas où il y a des suspects également, mais nous ne voyons pas, à mon humble avis, et lorsque nous circulons dans la ville, que nous vivons avec une maladie qui essaie de menacer. Et quand vous suivez également le médecin directeur de l'OMS également, il vous dit que cette maladie est plus dangereuse que le Covid-19 également. Mais nous nous demandons, est-ce que les gouvernements provinciaux, que ce soit du Lualaba, que ce soit du Haut-Katanga, Kasaï Oriental, Bukavu, Maniema, est-ce qu'il y a-t-il des mesures qui ont été prises où il y a une certaine légèreté? Est-ce qu'ils ont également des moyens suffisants pour combattre cette maladie, surtout en amont, dans la prévention également? C'est toutes ces questions que nous nous posons. Mais je voudrais un peu interpeller également le gouvernement provincial. Roger Dijodi, lorsque nous voyons en 2022 ou 2021, je pense 2022-2023 vers la fin, il y avait des études qui ont été faites également pour alerter qu'il y aurait cette maladie et bien déterminer un pox, je ne sais pas comment appeler ça, vous allez me permettre d'y aller comme ça. Il y avait déjà des études qui ont été faites. Il y a eu même des lanceurs d'alerte également qui ont fait ou qui ont interpellé les gouvernements, non seulement congolais, mais aussi les gouvernements africains et aussi tous les personnels sanitaires qui interviennent dans le domaine des de la lutte contre certaines maladies également.
Oui.
Nous nous demandons pourquoi les gouvernements étaient-ils aussi négligents vis-à-vis de cette maladie? Est-ce qu'il fallait tout simplement attendre à ce que l'OMS puisse déclarer qu'en RDC il y a telle maladie pour que de telles mesures soient prises? Autant de légèreté que nous avons constaté dans la lutte ou dans la prise en charge de cette maladie également, dites-moi à ces jours où on vous parle que nous avons autant de millions. Ça, ce sont des questions que je pose.
Peut-être Patrick Audia. Oui, Patrick, le gouvernement congolais a déjà débloqué 49 millions de dollars pour lutter contre cette maladie.
Oui, 49 millions sur combien? Je dis, est-ce qu'on peut y aller par mathématiques? Je suis juriste, mais je ne sais pas me mêler dans des mathématiques fictives, mais ça, au moins, ça ne peut pas m'échapper. Si, quand vous voyez les bilans, les besoins financiers dont on a énuméré par le ministre de la Santé, Roger, et qu'on disponibilise 49 000 dollars, disons 50 000 dollars, 50 millions de dollars, en lieu et place de 650 millions. Voyez-vous que nous sommes dans quel pays? Mais dès lors que nous apprenons qu'il y a des gens qui ont détourné des 300 000 dollars, des 300 millions, 500 millions, mais ici, on met en place pour lutter contre cette maladie 50 millions. Mais il y a des individus qui ont détourné, qui se sont permis de détourner 300 millions, 500 millions à un seul. Alors qu'ici, il s'agit d'un besoin collectif sanitaire, surtout les premiers besoins d'être en bonne santé, mais on disponibilise 50 millions. Monsieur le ministre, vous nous suivez en direct, avec beaucoup de respect à votre égard. Je pense que vous devez interpeller le chef de l'État dans les conseils des ministres vendredi, demain ou après.
Maître Patrick, c'est peut-être une première tranche et le gouvernement va encore financer au fur et à mesure.
Non. Je dis, disons-nous la vérité quand même. Sur 600 millions, vous débloquez 50 millions. Mais est-ce que la RDC manque l'argent? J'ai appris même que l'Allemagne a donné ou l'Angleterre a donné 10 millions. Écoutez, mais quand il s'agit de guerre, au Rwanda, on donne 20 millions. Mais quand il s'agit d'un besoin sanitaire,
l'Angleterre, c'est doit l'orgueil de nous donner 10 millions. Je pense que sur le plan diplomatique, la RDC doit être également à qui vive pour essayer de mener le lobbying afin d'obtenir également les gains de cause. Mais au niveau national également, nous avons des moyens. Il suffit juste d'avoir une bonne gouvernance, un leadership fort. Et par manque de ce leadership fort et d'une bonne gouvernance, je pense que nous ne pouvons pas maîtriser cette maladie.
Merci, merci, merci beaucoup, Maître Patrick. Merci beaucoup, Docteur Hakim Chako. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire, votre réaction par rapport à ce que Maître Patrick vient de dire?
Bon, en fait, je juste de lui rassurer que non, qu'il garde encore son souffle. Le gouvernement est à pied d'œuvre. Et cette fois-ci, ça ne va pas être comme ils pensent ou comme nous le pensons toujours. Hein, c'est maintenant l'autorité est en train de prendre toutes les précautions possibles pour contrôler cette maladie qui a fait beaucoup de pertes dans notre pays. Voilà.
Oui, bien. Professeur Nadège Ngombe, vous êtes là? Voilà, on a suivi que le gouvernement a déjà débloqué 49 millions de dollars pour riposter contre la maladie, mais le besoin sont autour de 3,5 millions de doses de vaccins d'une valeur de 600 millions de dollars. Alors, qu'est-ce que si on doit adopter l'approche dont vous avez fait allusion ou One Health, la multisectorialité, il faudrait, cela va exiger beaucoup de moyens, beaucoup de ressources financières pour mener à bien cette lutte.
Non, je vais quand même dire ceci. Il faudrait que notre compatriote qui a parlé à partir du Haut-Katanga puisse savoir que quand l'OMS décrète une urgence de santé publique de portée internationale, ce n'est pas juste pour le plaisir de le faire, mais c'est pour alerter le monde entier, appeler le monde entier à la solidarité, à mobiliser les fonds, les énergies, les ressources ensemble pour répondre à un problème complexe de santé qui concerne le monde. La RDC en est l'épicentre maintenant, mais c'est le monde entier qui est menacé. Si le monde ne fait rien, c'est le monde qui va souffrir de cette pathologie à travers les différents pays. Donc, le fait d'avoir déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale permet à ce que la mobilisation soit global pour que nous puissions avoir suffisamment de fonds, puisque là il s'agit des vaccins. La mobilisation internationale va permettre à ce que les différents pays qui ont été ciblés comme étant les pays de la première zone puissent avoir ces vaccins. Le gouvernement de la RDC fera sa part, c'est un gouvernement responsable. C'est vrai, nous regardons de loin, mais ceux-là qui sont en train de travailler au gouvernement, les fonds parce qu'ils sont responsables de la bonne santé de la population. Donc, que notre compatriote soit rassuré qu'il y a une mobilisation internationale, il y a une mobilisation au niveau de l'Afrique, via Afrique à CDC, mais il y a également une mobilisation au niveau du pays, autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a son bras technique, son bras agissant, qui est le ministre de la Santé publique. J'aimerais quand même revenir sur le fait qu'il a dit qu'il est inquiet qu'au niveau du Haut-Katanga, rien n'est fait. Mais si, à travers une matinée scientifique, la DPS a parlé, a présenté déjà son plan de préparation et de riposte, parce que le Haut-Katanga se situe au niveau de la zone C. Le Haut-Katanga n'a pas encore des cas déclarés et confirmés de Mpox. Même ceux-là qui ont été des cas suspects, on n'a pas eu de confirmation. Ça veut dire que le Haut-Katanga est en phase de se préparer. Comment est-ce que nous allons réagir si nous avons des cas? Ils ont présenté ces cas, les différents grands hôpitaux du Katanga ont parlé aussi de leur préparation. Donc, il y a quelque chose qui est fait, pas quelque chose. Il y a tout un plan qui est développé en disant que si le Haut-Katanga est touché, voilà comment est-ce que nous allons réagir. Et au niveau du Haut-Katanga, il existe un comité provincial, une santé, qui accompagne toutes ces activités en se disant que la multisectorialité doit être démise. Nous sommes là pour accompagner la province du Katanga à mieux se préparer pour faire face au cas où il y aurait des cas. Donc, ils ne puissent pas s'inquiéter. Moi, je suis à Kinshasa. Je suis de près ce qui se passe dans le Haut-Katanga. Donc, la province se prépare. La province n'a pas les bras croisés.
Bien. Merci, professeur. Docteur Hakim, vous avez parlé du plan de riposte qui a trois zones. Il y a la zone A, la zone B, la zone C. Alors, quelles sont les provinces qui font partie ou les régions qui font partie de la zone A, docteur Hakim Chakon?
Oui, les provinces d'abord qui font partie de la zone A, il y a l'Équateur, il y a le Sud Kivu, il y a le Sud Ubangi, il y a le Maniema. Et il y a le Nord Kivu, il y a le Nord Kivu, il y a le Nord Ubangi, il y a les Kasai.
Oui. Donc les provinces zone A, ce sont les provinces les plus touchées.
Les plus touchées justement. Mm. Et la zone B, c'est la zone où on a déjà confirmé un cas.
Oui.
Hein, de monkeypox. Mais puisqu'un cas. Voilà.
D'accord. Et la ville de Kinshasa, par exemple, fait partie de quelle zone?
De la zone A. La province de la zone A.
D'accord. On va accueillir Maître Mashaka de Kindu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste Ndo.
Oui,
c'est à partir de Lubumbashi, Maître Mashaka,
Quelle est votre question, Maître Mashaka?
Oui, ma question, j'ai une suggestion en même temps une question, puisque vous savez aujourd'hui, Monsieur le journaliste, ce qui se passe ici chez nous au Congo, c'est déplorable, hein, puisque vous savez aujourd'hui, on a dit les commissions de riposte, ainsi de suite. Et souvent, nous constatons, on prend les gens qui ne sont pas et spécialiste dans les domaines là, puisque c'est la sœur à qui, les frères à qui, puisqu'il y a une petite prime là qu'ils doivent avoir pour la campagne ou l'opération, et on prend n'importe qui. Et on ne prend pas les spécialistes, puisque les spécialistes, ils savent comment convaincre la population, faire comprendre la population les conséquences d'une épidémie. Vous savez, aujourd'hui, et pour ce qui concerne les mesures préventives, nous les Congolais, nous n'avons pas cet esprit-là de respecter les mesures préventives. Nous avons vécu avec le Covid ici. On nous dit de porter les masques. Les gens portaient les masques lorsqu'ils voient seulement les militaires ou bien les policiers là-devant. Mais
Maître Mashaka, on a plus beaucoup. Oui, on a plus beaucoup de temps. Oui. Merci. Vous parlez de, on doit prendre les spécialistes et puis les mesures préventives. Docteur Hakim Chakou, rapidement, il nous reste peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport aux mesures préventives? Docteur Hakim, vous êtes là?
Au savon.
Oui.
Oui, nous disons parmi les mesures barrières, nous recommandons le lavage des mains à l'eau et au savon.
Oui.
À tout le temps, et se faire, comment dirais-je, et porter le masque, hein. Ça, c'est les mesures primaires, hein, les mesures primaires, et c'est ce qui peut nous épargner d'abord de tout ce qui est comme une ascension de la maladie.
Bien, merci beaucoup, docteur Hakim Chakou. Je rappelle que vous êtes chef de division technique au programme national des luttes contre le monkeypox. Excellente journée, et à la prochaine.
Merci beaucoup, à vous autant. Merci.
Bien, professeur Nadège Ngombe, on va aussi conclure avec vous. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de la commission de coordination Une Santé. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour avoir une bonne riposte contre le monkeypox?
Oui, merci bien. Je pense que peut-être son excellence, monsieur le ministre, l'a dit tout à l'heure.
Bon, on n'a pas pu la voir, malheureusement. Il n'était pas disponible, voilà.
Ok, d'accord. Donc, je vais un peu répéter ou insister sur ce qu'il a dit. Nous basons cette riposte sur l'action des agents communautaires qui sont partout à travers nos cités,
qui peuvent s'entretenir avec nos familles, avec les communautés, pour nous expliquer comment est-ce que nous devons nous comporter face au Mpox. On a eu à les utiliser dans les autres grandes épidémies qu'on a eu à gérer. Oui. Ça a marché. Nous allons faire la même chose. Et j'insiste sur le fait que
merci,
la
professeur.
RDC... Ok, merci. Merci. Sur le fait que ce sont des spécialistes qui sont à l'œuvre et qu'on fasse confiance à la RDC, nous allons vaincre cette épidémie ensemble.
Professeur Nadège Ngombe Kabamba, coordonnatrice de la commission de coordination Une Santé, merci et à la prochaine.